France Inter.
La présidente et fondatrice de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Maillefert, est socialement engagée depuis le lycée, lieu où elle découvre la force du collectif. Ancienne porte-parole puis présidente d'Oser le féminisme, elle a également œuvré comme déléguée générale de Blue Energy, organisation non gouvernementale de promotion des énergies renouvelables au Nicaragua et dans l'association Mouvement du Nid auprès de femmes victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques. Elle a notamment publié aux éditions des Petits Matins Ils ne décideront plus pour nous, débat sur l'IVG 1971-1975, Tu seras une femme, guide féministe pour Manifeste et ses amis, et écoutez-nous bien, le manifeste de la Fondation des Femmes. La créatrice du lieu de sensibilisation en faveur de l'égalité femmes-hommes, la Cité Audacieuse à Paris, publiera en avril prochain l'essai La panique démographique, ce que le féminisme nous apprend. Avec Caroline Chenu, elle vient d'assurer le commissariat de l'exposition Bonne Mère, visible jusqu'au 31 août au MUCEM à Marseille et dans deux jours. L'exposition ouvre dans deux jours le 18. Une exploration des diverses images auxquelles renvoie le rôle de mère et son vécu réel. L'occasion de se plonger dans les imaginaires mythologiques, religieux, politiques ou artistiques. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Anne-Cécile Maillefert.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Alors la dernière chose là que je viens de recevoir il y a quelques heures, c'est le don d'un gynéco sur Paris, puisque je n'en avais plus, la mienne ayant pris sa retraite. Et ça fait quelques jours que j'ai des énormes bouffées de chaleur pendant mon sommeil. Je me dis, c'est peut-être la périménopause, je sais pas, j'en sais rien. J'ai 42 ans, donc c'est peut-être ça. Il faut absolument que j'aie un gynéco, et ça court pas les rues, les bons gynécos.
Non, c'est vrai. Je le dis car j'ai fréquenté des femmes. Vous avez un bac scientifique, deux masters, un en études latino-américaines à l'université de Salamanque en Espagne, un de management de l'innovation sociale à Sciences Po Lille. Avez-vous une idée précise en tête à ce moment-là?
Non, après j'ai un peu la même énergie depuis toujours, donc c'est à la fois l'envie de concrètement transformer les choses autour de moi, améliorer la vie, améliorer le monde. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc après, ça pouvait prendre plein de choses, ça aurait pu prendre plein de chemins. Et puis ça a pris celui que ça prend en ce moment.
Vous avez été déléguée générale de Blue Energy, je l'ai dit dans l'introduction. C'est une organisation non gouvernementale au Nicaragua.
Alors pas que moi j'ai créé
l'antenne
le siège,
en
voilà l'antenne en France, mais c'était une ONG dont l'objectif était de faire en sorte que les peuples puissent être autonomes dans la création de leur énergie. Donc c'était promouvoir les éoliennes autoconstruites, donc avec les choses, les outils et les éléments qu'on peut trouver un peu partout, et puis aussi les filtres à eau autoconstruits. Donc comment les peuples peuvent en ayant accès par eux-mêmes à leur propre création d'énergie, à devenir à continuer à être autonome, indépendant. Et je trouvais que c'était une idée formidable qui était tout à fait révolutionnaire. Et donc voilà, donc j'ai fait ça pendant quelques années et j'ai beaucoup aimé. Et je salue d'ailleurs mes anciens camarades de Blue Energy.
Vos parents étaient professeurs, ils voulaient transmettre le goût d'apprendre. Alors qu'apprenez-vous encore aujourd'hui ou qu'auriez-vous envie d'apprendre?
Alors j'apprends, là en ce moment j'apprends énormément de choses parce que justement je me suis mise à travailler ce sujet donc des maternités, de la dénatalité aux côtés de Caroline Chenu qui est donc ma co-commissaire de cette exposition Bonne Mère. J'apprends à chaque minute où je lui parle, c'est fabuleux d'être aux côtés d'une femme aussi brillante et avec autant de connaissances. Et donc tout d'un coup c'est tout un nouveau pan en fait de connaissances dans lequel évidemment j'y mets ma perspective féministe, mais tout ce champ en fait artistique des femmes artistes, des artistes en général, sur ces sujets qui me concernent moi en tant qu'humaine, en tant que femme, mais qui nous concernent tous, toutes ces représentations de la maternité depuis la préhistoire. Et là, j'apprends, je me délecte vraiment, je trouve ça fabuleux de découvrir tout ce que je suis en train de découvrir en ce moment.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Anne-Cécile Maillefert, quelle est votre définition du féminisme? Parce que parfois vous jouez un peu d'ironie, comme lorsque vous dites par exemple « le féminisme, c'est l'idée radicale que les femmes sont des êtres humains comme les autres ».
Oui, bah c'est à peu près ça. Hein. C'est une idée radicale dans le sens où ça change tout à la base. Puisque si à la base, on nous considère comme des humaines, à la base, à la racine, d'où vient le mot radical, alors ça change tout si on en considère vraiment comme des humaines, comme des humaines comme les autres. Une autre aussi formule que j'aime beaucoup, c'est on me dit que je suis féministe à chaque fois que je ne me considère pas comme un paillasson. Et je pense que... Donc ça, c'est pas du tout de moi, hein, je sais plus d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une autre phrase qui dit bien ce qu'est le féminisme. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très simple en réalité, très simple à la base des choses, de ne pas se considérer soi et de ne pas considérer les autres femmes comme des êtres humains inégaux. Vraiment, nous sommes d'égale dignité par rapport aux hommes.
En lisant une de vos interviews, j'ai appris qu'à une époque en Angleterre, il y avait plus de refuges pour les ânes que de refuges pour les femmes victimes de violences.
Oui, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il faudrait que je vérifie mes chiffres, mais il y a 10 ans, c'était le cas.
C'est impressionnant.
C'est tout à fait impressionnant. C'est vrai que sur le sujet des femmes, des droits des femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes, ce n'est pas un sujet qui est totalement ignoré, donc on a l'impression qu'il existe. Mais après, quand on voit derrière... Concrètement, ça veut dire quoi? Et en particulier pour les femmes victimes de violences qui ont donc des besoins spécifiques, eh bien en fait, on voit très vite qu'il y a plein de choses qui manquent. Et donc c'est un sujet qui est à la fois très présent et en même temps qui malheureusement ne jouit pas des moyens dont il devrait jouir pour pouvoir vraiment avoir des solutions en fait pour régler ces problèmes-là. Et donc par exemple, il faut se battre pour avoir des centres d'hébergement pour sauver des femmes en danger de mort. Il faut se battre pour qu'il n'y ait pas 94% de classement sans suite des plaintes pour viol. Il faut se battre pour être payé à égalité. Vous voyez ce que je veux dire ?
94%
de classement sans suite, oui. Donc en fait, c'est ça qui est un peu toujours étonnant avec les sujets des femmes. C'est un petit peu à l'image des mères, d'ailleurs des bonnes mères. Elles sont toutes en haut des cathédrales, elles sont magnifiques, elles brillent. On a l'impression qu'elles sont très présentes là. Et en réalité, elles sont aussi tout aussi présentes qu'elles sont en réalité ignorées dans la réalité, dans le vécu, dans le quotidien, dans les besoins concrets des vies des femmes.
Ça, on va en parler. Je m'intéresse d'abord un peu à votre parcours et au féminisme. Vous dites qu'il y a beaucoup d'hommes qui combattent aux côtés des féministes et vous dites que certains ont souffert du machisme de leur père, d'autres l'ont vu maltraiter leur mère ou leur sœur. Y en a-t-il qui n'ont pas souffert de ça et qui sont féministes quand même ?
Je sais pas. Alors je dirais pas qu'il y en a beaucoup des hommes. Je pense qu'il y en a clairement pas assez. En tout cas, il n'y a pas assez d'hommes qui font ce travail-là, non seulement de réfléchir à leurs propres actes, mais aussi d'embarquer d'autres hommes là-dedans. Et moi, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce moment où nous, les féministes, on a fait tout ce qu'on pouvait pour avoir des messages vis-à-vis des femmes en général. Et on voit que ça a fonctionné, hein, grâce à MeToo, par exemple. 3 fois plus de plaintes pour viol. Une parole qui, clairement, est beaucoup plus présente. Des manifestations, là encore, il y a quelques jours, qui sont extrêmement nombreuses. Hein, plus de 130 000 personnes dans les rues parisiennes. Donc, on voit bien que c'est un sujet qui est maintenant très présent dans la vie des femmes et des jeunes femmes en particulier. Et puis, on voit que, du côté des hommes, ça n'a pas trop bougé, voire même ça recule. Et donc, on sent cette résistance du côté des hommes qui est aujourd'hui le principal obstacle à l'égalité. Ça n'est plus la prise de conscience des femmes de leurs conditions. Ça y est, elles savent, hein, elles savent bien, elles le vivent tous les jours. Mais c'est plutôt le fait que, tant que les hommes ne veulent pas bouger, ne veulent pas changer, les demandes des femmes se heurtent à un mur qui peut faire mal.
Vous dites que le mouvement du féminisme a toujours eu mauvaise presse.
Oui, ça a toujours eu mauvaise presse. Alors un petit peu moins aujourd'hui, hein, puisqu'on a fait un sondage dernièrement qui montre que 66% des Français et des Françaises ont une appréciation positive du féminisme. Donc c'est un chiffre qui montre quand même que l'immense majorité des Français et des Françaises trouvent que c'est bien le féminisme. Donc ça, c'est cool. Mais ça n'a pas toujours été le cas du tout au moment des suffragettes, par exemple, des affiches qui les caricaturaient comme des hystériques, extrêmement violentes, des terroristes qui allaient détourner les femmes de leurs enfants et de leurs maris, qui allaient détruire les couples, etc. Enfin, c'est des choses qu'on peut d'ailleurs retrouver, dit un tout petit peu différemment aujourd'hui, mais qu'on peut quand même retrouver parfois. Oui, le féminisme n'a pas toujours effectivement eu bonne presse. Il dérange. Il dérange parce qu'il vient nous bousculer dans ce qu'on pensait être immuable.
J'ai lu aussi qu'une étude montre que beaucoup d'hommes ont peur de la place que vont prendre les femmes dans les années qui viennent.
Oui, oui, ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a cette résistance de la place de la part des hommes. Moi, c'est vrai, quand j'ai commencé à militer il y a 15-20 ans, je me disais, en fait, les gens, ils se sont pas rendus compte. Ils n'ont pas vu qu'il y avait les inégalités, alors on va les aider à voir. Et puis, une fois qu'ils verront que c'est pas juste, eh ben, ils vont vouloir améliorer les choses. Parce que moi, je suis comme ça. Quand je vois un truc pas juste, je veux régler l'injustice. Et puis, en fait, ce dont on est en train de s'apercevoir aujourd'hui, c'est que c'est pas si simple. C'est pas juste une question que il faut que les femmes et les hommes ouvrent les yeux. C'est malheureusement, beaucoup d'hommes peuvent se sentir menacés par le fait que les femmes prennent leur juste place et n'ont pas envie de ça. Ils ont envie de garder, en fait, une position privilégiée parce qu'elle est quand même, même si en réalité elle n'est pas toujours confortable pour tous les hommes, parce que des mâles alpha, il n'y en a quand même pas tant que ça. Beaucoup d'hommes en souffrent aussi, mais néanmoins, il y a quand même cette idée que, en tant que mâle, on a plus de chances d'être un genre mâle alpha, ça c'est sûr. Et donc, du coup, voilà, il y a ces résistances.
Vous êtes encline à l'engagement depuis toujours, Anne-Cécile Maillefert, adolescente, vous supportiez déjà mal les ordres et l'idée que vous ne puissiez pas faire quelque chose sous prétexte que vous étiez une fille. Et je crois qu'en classe de 4e, lors d'un cours d'éducation sexuelle, vous avez posé une question sur la masturbation des filles. La moitié de la classe s'est moquée de vous et vous avez été harcelée au point de devoir quitter ce collège.
Ouais, et heureusement, les réseaux sociaux n'existaient pas parce que je ne sais pas comment j'aurais fait pour authentiquement survivre s'il y avait eu les réseaux sociaux. Mais oui, effectivement, j'avais posé une question anodine. On parlait des corps des femmes, des hommes, etc. Bon, c'était un peu provoque aussi, je pense, parce que j'aime bien un petit peu, des fois, faire des blagues. Mais du coup, tout à coup, j'ai effectivement senti cette réaction très forte. Pourtant, les garçons, moi, je me souviens les avoir entendus parler de masturbation, un peu rouler les mécaniques, on va dire qu'eux, ils se masturbaient, etc. Et donc, moi, je posais cette question un petit peu aussi en provocation. Et puis, j'ai vu tout à coup que les filles, elles devenaient totalement muettes, c'est-à-dire qu'aucune d'entre elles ne pouvait dire qu'elle avait déjà essayé de voir ce qui se passait entre ses jambes, et que les garçons, eux, ils pouvaient tout à fait le dire et l'assumer. Et donc, il y avait cette différence sur la sexualité entre filles et garçons qui était énorme, c'est-à-dire que les garçons avaient le droit de faire ou de dire des choses, et les filles n'avaient pas le droit. Et j'ai aussi vu le fait que quand on parle comme ça, quand on est toute seule, quand on sort du bois toute seule pour dire un truc qui me paraissait être une évidence vraiment complètement anodin, et ben tout d'un coup, voilà, il y a une opprobre sociale, et j'ai été mise au banc de ma classe, et puis après de l'école, et du collège, quoi. J'ai effectivement dû changer de collège, et ça m'a fait beaucoup de bien de partir, ça m'a rendu très très malheureuse tout ce sujet, parce que je voulais pas d'ailleurs me dédire, je voulais pas dire voilà, que c'était pas un sujet et que j'aurais jamais dû poser cette question. Moi, je trouvais que j'avais raison, que c'est, voilà, que si les hommes se masturbent, pourquoi pas les femmes.
Ah bah oui.
Et voilà, je trouvais que c'était logique.
Vous avez entendu mon « oh bah oui » qui vous rejoint.
Mais voilà, mais bon, c'était trop... voilà. Et en tout cas, ce que ça m'a appris surtout, c'est que pour porter ce genre de discours, c'est vrai que c'est quand même mieux quand on est plusieurs et quand on est en bande. Et donc, c'est surtout ça, moi, ce que ça m'a appris, cette histoire, c'est qu'il vaut mieux mener les combats ensemble.
Et ça, c'est une découverte que vous faites au lycée.
Ouais,
vous êtes déléguée et déléguée des délégués.
Ah oui, ouais, vous avez trouvé ça.
Bah, bien sûr, partout.
Voilà. Ouais, ouais. Bah non, mais j'aime bien m'engager, hein, j'ai pas de problème avec ça. Donc effectivement, ouais, déléguée des délégués au lycée, puis on fait des manifs.
Bah oui, pour le coup des livres.
Pour le coup des livres, exactement.
Scolaire.
Mes premières manifs, et on débraye tous les lycées de Nancy, puis de Metz, on fait une grosse manif devant le conseil régional. Tous les lycéens, j'étais à fond sur mon mégaphone, j'ai adoré ce moment. Et on a gagné, bon, pas grand-chose, on a eu des chèques, enfin, les parents ont eu des chèques pour aider les élèves à... Enfin, pour aider, pardon, le conseil régional a fait des chèques aux parents pour les aider à payer les livres scolaires. Mais c'est vrai que ça m'a appris aussi cette joie incroyable. Quand vous faites des manifs, il y a une espèce de... À l'intérieur de vous, il y a quand même quelque chose, le fait d'être une foule, d'être un collectif comme ça, qui se dit, vas-y, on va avoir plus de droits, on va se battre et on va gagner quelque chose ensemble, de positif, ça vous donne un élan, une énergie à l'intérieur qui est superbe.
Alors en parlant d'énergie, quand vous êtes entrée dans l'association Oser le Féminisme, vous en êtes devenue la porte-parole puis la présidente, et vous avez frôlé le burn-out parce que vous dites très justement le problème du militantisme est qu'il nous épuise parce que nous sommes tout le temps en colère pour de justes raisons.
Oui, alors c'est vrai que du coup, après, j'ai un petit peu changé ma manière de faire. Oui, c'est pas simple. En plus, bon, on est toutes des femmes, globalement, dans cette association. La plupart d'entre nous avons aussi vécu des violences masculines, évidemment. Et plus vous entrez dans le féminisme, plus vous ouvrez des livres, plus vous découvrez l'ampleur, en fait. Non seulement vous n'êtes pas toute seule, que c'est pas que votre histoire, que c'est plein de femmes, que c'est plein d'histoires depuis toujours et peut-être encore demain, et que ces violences, elles sont énormes et que, globalement, tout le monde s'en fout, ou voilà, l'attention est vraiment très sporadique. Et donc, c'est vrai que ça vous plonge dans quelque chose de complètement vertigineux. Et il faut absolument, là, il faut se battre, changer ça. Et moi, j'ai vraiment envie de changer les choses, d'améliorer. Et puis, je me heurte, évidemment, parfois, à l'impuissance. Et l'impuissance face au malheur, face à la violence, c'est une double douleur, en fait. Il y a l'empathie. Voilà, vous avez une femme en face de vous qui souffre, ça ne peut pas ne pas vous toucher. Et puis le fait de ne pas pouvoir changer les choses, moi j'aimerais bien, voilà, qu'un jour il n'y ait plus jamais aucune femme qui soit violée. Mais je ne sais pas si on y arrivera.
Non, je vais essayer de faire venir un génie qui exauce des souhaits. Mais...
Une génie, du coup, peut-être ça marchera mieux.
Une génie, peut-être, nous verrons. Mais c'est vrai que là, oui, ça paraît assez mal parti, hélas. En parlant de violence, vous avez été victime d'un lynchage numérique par des médecins. Après avoir dénoncé une fresque sexiste dans la salle de garde du CHU de Clermont-Ferrand qui mettait en scène un viol collectif, ça je l'ai vraiment appris en préparant cette émission. Et vous avez changé les choses puisque vous avez obtenu la première condamnation prononcée sur le fondement d'injures publiques à raison du sexe, délit créé en 2004 qui n'avait jamais été jusque-là appliqué en France, jusqu'en 2018.
Non, franchement, on a gagné plein de trucs trop cool, dont ça, par exemple. Effectivement, c'était un moment particulier d'avoir sur le banc des accusés, du coup, une ribambelle de médecins qui regardaient leurs chaussures en disant « Désolé, monsieur le juge, oui, j'aurais pas dû. Non, mais en fait, quand je disais ça, le pute, en fait, je voulais pas vraiment dire ça, c'était pas sexiste, en fait, on peut aussi dire ça d'un homme. Non, mais pourquoi j'ai dit connasse ? Bah, je sais pas, moi, en fait. Et du coup, pourquoi il y avait ces photomontages affreux pornographique de Madame Maillefer, je sais pas. Et en fait, c'était vraiment très, voilà, très intéressant à vivre. Et comme on a gagné, c'était voilà, assez sympathique, mais surtout très intéressant de tout d'un coup, en fait, de voir quand il n'y a plus l'impunité, et ben ils se retrouvent quand même à regarder leurs chaussures et à dire qu'ils auraient jamais dû faire ça. Et se demander, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait?
Parce que vous rappelez que le sexisme n'est pas une blague, c'est un délit. Vous n'avez jamais eu peur du conflit, parce que dans le militantisme, il y a forcément du conflit.
Ouais.
Du rejet, ou de ne pas être aimé, ou de la violence.
J'avoue que j'aime pas trop ça. C'est-à-dire que je préfère largement être aimé à ne pas être aimé. C'est quelque chose qui est... Je travaille avec ma psy là-dessus, si vous voulez qu'on en parle aussi.
Oui, on peut en parler. Hein, vous savez.
Non, mais c'est pas simple, surtout pour les filles, en fait. Comment dire, notre capital tient aussi au fait qu'on
on nous
se
a
fait
appris
aimer.
Qu'il fallait être aimé, voilà. Douce.
Et si on n'est pas aimé et douce, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc c'est vrai que c'est pas simple pour les filles d'assumer le fait de c'est pas grave si on m'aime pas. Et dans le militantisme, effectivement, il y a des conflits, et surtout dans le féminisme, ça peut effectivement être très violent. Après, j'imagine que dans tous les milieux et dans la politique en général, ça peut aussi être violent. Mais c'est vrai que quand on se dit on est toutes sœurs de combat, etc. Moi, c'est vrai que les critiques qui viennent des féministes me touchent beaucoup plus que les critiques qui peuvent venir de l'extrême droite, des masculinistes, etc. Cela, c'est normal, en fait. S'ils m'aiment pas, c'est que j'ai bien fait mon travail. Mais par contre, quand c'est des critiques qui viennent de femmes que j'estime, de féministes, c'est vrai que ça me touche beaucoup plus.
Est-ce qu'il y a une vraie sororité dans votre milieu ?
Non, pas toujours, mais un peu. En tout cas, nous, à la Fondation des Femmes, on essaye vraiment de travailler là-dessus, de faire ça. Par exemple, typiquement, là, pour le 8 mars, on a réussi à amener au sein de la Fondation des Femmes, des mères et des filles, et particulièrement, du coup, Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot et Gisèle Pellicot, qui ont toutes les deux traversé cette épreuve immense et terrible de ce procès et des violences donc de Dominique Pellicot sur Gisèle et sur Caroline. Et de réussir à les rassembler, il y avait eu un peu de... ça a été une relation difficile entre elles de par ces violences-là. Et ça, par exemple, moi, quand je rassemble les gens comme ça, j'adore. Je me sens vraiment en harmonie, je me sens bien. Je trouve que ça fait partie aussi, moi, de mon travail à la Fondation des Femmes aujourd'hui, de rassembler les féministes, de rassembler un maximum de personnes, de dépasser aussi les murs du féminisme, de rassembler des entreprises, des personnalités, des bénévoles, des hommes, des femmes, des personnes qui ne sont pas forcément super féministes, qui n'ont pas forcément lu quoi que ce soit, etc., mais qui ont le sentiment qu'il faut faire un truc quand même parce que ça suffit. Et ben voilà, rassembler tout ça, et plus je rassemble largement, et plus je me sens bien en fait, je suis dans mon rôle.
À partir d'aujourd'hui, les Françaises peuvent se faire avorter librement, en tout cas dans les 10 premières semaines de leur grossesse. Toute femme qui s'estime en situation de détresse peut demander à son médecin l'interruption de cette grossesse. Son médecin lui remettra un dossier indiquant les aides dont elle peut bénéficier si elle veut garder son enfant. Après une semaine de réflexion, elle peut confirmer sa demande, elle devra alors le faire par écrit. L'interruption sera faite uniquement par un médecin et en milieu hospitalier. Mais tout médecin a le droit de refuser de pratiquer un avortement et les établissements privés ne sont pas obligés non plus de les permettre dans leurs services. L'interruption de la grossesse n'est pas remboursée par la Sécurité sociale, mais les femmes qui sont dans le besoin pourront obtenir une aide médicale. Après 10 semaines, l'interruption de la grossesse n'est autorisée que si cette grossesse présente des risques graves pour la santé de la femme ou des risques élevés de malformation pour l'enfant à naître. Des décrets d'application de cette loi devront encore être publiés dans la quinzaine à venir. Restent également à organiser les services où auront lieu ces interventions, certains médecins ayant annoncé leur intention de ne pas pratiquer d'avortement. Mais d'ores et déjà, toutes les poursuites judiciaires engagées pour avortement sont suspendues.
Jacqueline Collins pour le JT de TF1 du 18 janvier 1975 au sujet de la loi Veil libéralisant l'IVG en France sous certaines conditions. Comme on l'entend, et justement, je voulais faire entendre cette archive, Anne-Cécile Maillefer, puisque on voit que ça n'a pas tout de suite été une libération. C'est-à-dire que c'est un long travail, et qu'encore aujourd'hui, le droit à l'avortement est menacé dans des pays où il est pourtant autorisé.
Le droit à l'avortement, il est menacé dans plein d'endroits aujourd'hui. Hein. C'est vraiment... Moi, ça m'inquiète beaucoup.
À Malte
Voilà, alors à Malte, effectivement, dans plusieurs pays, effectivement, y compris européens, c'est devenu de plus en plus compliqué. Hein. La Hongrie, la Pologne...
La Pologne, il est interdit.
Voilà, donc on est vraiment sur... et c'est un mouvement qui s'amplifie. Aux États-Unis, bien sûr. Ça a été une énorme claque, je pense, pour toutes les féministes et plus généralement pour toutes les femmes et les hommes pour qui c'est important. Le retour en arrière. Mais en France, on tient bon. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est battu à la Fondation des Femmes pour que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution, puisqu'on sentait bien depuis quelques années qu'il fallait faire attention. Et... c'est mes aînés qui m'ont appris que le droit à l'avortement, c'est un droit qu'on protège en étant constamment en progressant constamment. Donc, il faut allonger les délais, il faut constitutionnaliser, et puis là, on a fait passer du coup une nouvelle loi qui permet d'amnistier les femmes qui ont été condamnées pour avortement avant 1973, avant la loi Veil. Et donc, il faut continuer constamment à parler du sujet et à progresser, parce que dès qu'on arrête de progresser, eh bien, on est menacé de reculer.
D'ailleurs, vous citez Simone de Beauvoir, « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Mais c'était épuisant.
Ouais, j'ai eu du mal à le comprendre. Je pensais vraiment, quand j'étais jeune, je suis pas si vieille, mais bon voilà, non. Quand j'étais jeune, je pensais vraiment qu'en fait on allait gagner des droits, qu'on allait progresser un peu, on montait d'une marche. Il y a ce vocabulaire aussi des fois qu'on utilise, on progresse, on monte d'une marche. Et puis en fait, j'ai compris plus récemment que, en fait, l'égalité entre les femmes et les hommes, en tout cas les rapports, ce rapport-là, cette hiérarchie des sexes, c'est une tension. Donc en fait, c'est un va-et-vient. Parfois, on gagne du terrain et puis ensuite, ils peuvent venir regrignoter des choses. Et donc, il faut être constamment, malheureusement, oui, constamment en train de se battre. Mais ça m'a plongée dans un grand désarroi l'année dernière avec la victoire de Trump, Zuckerberg, Elon Musk. Enfin, il n'y avait pas un pour rattraper l'autre. Tous les jours, il y avait des déclarations plus affolantes. Et donc, ça m'a vraiment... Je me suis dit, mais merde, on est en train de tout perdre. Et puis après, je me suis dit que finalement... lutter, c'était aussi une belle forme de vie et que lutter, c'était aussi, ça pouvait être aussi amener beaucoup de joie dans la vie, et que ça donnait beaucoup de sens à sa vie, et que finalement, j'avais beaucoup de chance, moi, d'avoir trouvé ce sens-là à ma vie, et que ça s'arrêtera peut-être jamais, mais finalement, pourquoi pas.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Maman, tu es la plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie.
Tina Rossi, Maman, la plus belle du monde, tout simplement. Anne-Cécile Maillefer, vous avez assuré avec Caroline Chenu le commissariat de l'exposition qui ouvre dans 2 jours. Bonne mère au Mucem à Marseille. Qu'est-ce qu'une bonne mère pour vous? Et surtout, peut-on être une bonne mère? Car vous rappelez dans le catalogue très justement que les mères sont trop souvent coupables, quoi qu'il arrive.
Oui, il y a pas de bonne mère, on est toutes des bonnes mères en réalité. Bonne mère, c'est vraiment la bonne mère, c'est cette figure comme ça. Alors, ça fait évidemment référence à cette statue marseillaise qu'on connaît bien. Voilà, on est sur une image très figée, très sacralisée, très solaire d'une mère qui est absolument inaccessible, puisque déjà à la base, on peut pas être mère et vierge. Ça, c'est mort.
Et pourtant, il y a beaucoup de vierges dans l'exposition.
Aucune d'entre nous ne qualifie déjà de base. Donc voilà, faut lâcher l'affaire. Aucune de nous n'est une bonne mère en ce sens-là. Et justement, ce qu'on vient faire avec cette exposition, c'est qu'on vient exploser ce mythe unique et montrer qu'en fait, il y a des tas de manières, il y a des tas de représentations déjà de la maternité au fil des âges, au fil des sociétés, dans tout le pourtour méditerranéen, depuis la préhistoire jusqu'aujourd'hui aux artistes contemporaines. On voit bien qu'en fait, la maternité, elle peut être montrée, elle peut être dépeinte, elle peut être sculptée de manière extrêmement diverse, et qu'elle montre que les sociétés ont projeté des choses très différentes sur les femmes et les mères, et la maternité et la fécondité.
D'ailleurs, vous teniez à montrer les réalités de la maternité, donc la réalité matérielle du corps des femmes, qui est si souvent tabou, caché, honteux, critiqué ou contrôlé, c'est-à-dire les règles, l'accouchement, l'allaitement, la PMA, l'adoption et les nouvelles formes de maternité. Parce qu'on s'en rend compte en lisant le catalogue. Moi, je n'ai pas vu l'exposition, elle n'est pas encore ouverte, j'ai lu le catalogue. Ouais. Le sang menstruel, par exemple, a de tout temps été diabolisé.
Absolument. Alors, vous allez voir dans le catalogue des tas d'autres choses. Il faut l'acheter, d'ailleurs, c'est chez Actes Sud. Oui, le corps des femmes, c'est ça qui est très étrange. La maternité, on est vraiment dans ce grand paradoxe d'une puissance totale, puisque les femmes, quand même, ont cette, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, ont la capacité de pouvoir faire naître la vie. Donc ça c'est une puissance que n'ont pas les hommes. Et en même temps, c'est la raison de notre soumission, c'est la raison de notre domination, c'est la raison pour laquelle les hommes, si on en croit les anthropologues, c'est la raison pour laquelle il y a eu cette organisation sociale, cette hiérarchie des sexes, pour que la classe sociale des hommes puisse s'approprier et être sûr de pouvoir contrôler nos corps et la descendance humaine.
On voit dans cette exposition des œuvres antiques, on voit aussi des peintres contemporaines, comme par exemple Nathanaël Herbelin, qui s'est beaucoup intéressée à la question de la maternité. Elle était venue nous rendre visite dans l'émission, Mireille Blanc. Mais je me suis posé une question tout de même.
D'artistes extraordinaires contemporaines du pourtour méditerranéen.
Et je me suis posé une question en voyant le tableau de Laetitia Kee, Matrix of the World, la matrice du monde, où on voit un corps nu qui accouche d'une terre, la terre, donc le globe terrestre, avec plein de sang. Et je me suis posé une question, est-ce que être dérangée par ce type d'image, c'était forcément ne pas être féministe, parce que certaines spectatrices peuvent être aussi dérangées de voir une image comme ça, avec un homme et quelque chose impliquant du sang qui sortirait de l'orifice d'un homme?
Alors oui, alors j'espère que ça va pas choquer trop de monde non plus, parce que c'est une exposition qui est magnifique, qui est très solaire, avec beaucoup de choses très douces.
Ah non, il y a beaucoup de choses très douces, mais c'est vrai que ce tableau
est un peu... Mais c'est vrai que ça fait partie de la maternité. La maternité, c'est à la fois beaucoup de choses, beaucoup de douceur, de rondeur, beaucoup... Et en même temps, enfin, pour toutes celles qui ont, toutes celles et ceux d'ailleurs qui ont vécu un accouchement. Moi, j'ai mis 5 jours à accoucher. C'était cauchemar. C'était, enfin, un cauchemar. Non, pas tout à fait, mais en tout cas, c'était une boucherie, hein, clairement. Donc, en fait, typiquement, l'accouchement, c'est vraiment une sorte de truc préhistorique là qui vous traverse. Et c'est des fluides corporels dans tous les sens. C'est ça aussi qui est magnifique dans ce moment-là, c'est que on en vient, voilà, à des choses qui sont passées depuis toujours, et on a l'impression d'être ces femmes dans les grottes là, et c'était pareil, et donc c'est un peu ça aujourd'hui. Donc oui, quand on accouche, il y a des cris. Alors bon, avec la péridurale, bien heureusement, c'est moins douloureux, merci à la péridurale, mais il y a quand même évidemment de la douleur, il y a beaucoup de fluides divers et variés, il y a du placenta, c'est comme ça. Et donc cette peinture, elle accouche du monde. Et il y a quelque chose aussi là qui est très fort. Donc ça reprend évidemment la peinture. Enfin, c'est une sorte de copie, si vous voulez, de réinterprétation de Courbet avec l'origine du monde. Mais là, en fait, on a vraiment... elle accouche du monde, et c'est vrai, en quelque sorte. C'est un peu ça que font les femmes. Elles accouchent de la suite de notre histoire collective.
On voit Afsia Herzi, la comédienne et réalisatrice, sur une photo signée Pierre et Gilles intitulée La Vierge à l'Enfant, et elle a aussi réalisé le film Bonne Mère.
Ouais.
Et on voit tout l'imaginaire. Et donc, bon, tout à l'heure, vous avez parlé des vierges, évidemment, dans la peinture.
Ouais.
Il est aussi beaucoup question de mythologie.
Ouais.
Et alors, grâce à vous, j'ai découvert une déesse que je ne connaissais pas. Je connaissais Artémis, Déméter, Isis, Héra, Athéna. Il y a les déesses qui n'ont pas d'enfants, d'ailleurs. Mm-hmm. Hestia, Athéna, mm-hmm. Artémis.
Mm-hmm.
Et j'ai découvert, grâce à vous, Astarté, déesse majeure du Proche-Orient ancien, vénérée en Phénicie et Syrie comme divinité de la fertilité, de la sexualité et de la guerre.
Et de la guerre, oui. Alors, il y en a d'autres comme ça qui sont très, très cool, mais qu'on connaît moins, mais que grâce à toutes ces artistes aussi contemporaines qui viennent réinventer ces mythes antiques, on va pouvoir les retrouver dans nos musées, dans nos quotidiens, dans nos imaginaires aussi. Par exemple, vous avez la déesse Bobo, hein, la déesse de l'orgasme, qui vient redonner le sourire à Déméter qui a perdu sa fille Corée, emportée par le dieu des enfers, et du coup, Déméter est très triste, et donc c'est l'hiver, et puis Bobo arrive, elle va soulever sa jupe, et là on va découvrir son sexe, enfin elle va montrer son sexe du coup à Déméter, qui se prend d'un grand fou rire, et donc elle retrouve la joie et le printemps revient. Donc ça, c'est par exemple, ces mythes-là sont réinventés. On a Prunouri qui vient réinventer les Vénus, on a par exemple...
Excusez-moi, je fais une incise là parce que c'est intéressant justement, ouais. Parce que Prunouri est venue nous rendre visite dans cette émission, et elle parlait des Vénus, elle en a beaucoup, ouais, fait. Et en fait, les Vénus, ce n'est pas ce qu'on pourrait croire. Ce n'est pas une femme absolument parfaite et sublime et fantastique. Elles sont de toutes formes, de toutes sortes et de tous âges.
Oui, en fait, on plaque beaucoup sur ces déesses antiques et ces déesses préhistoriques des conceptions tout à fait modernes et souvent très masculines, hein, de ceux qui ont découvert en fouillant la terre ou autre ces déesses-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces déesses préhistoriques, elles étaient probablement, effectivement, elles avaient un rôle très différent de celui que l'on pense. Elles avaient sûrement un rôle beaucoup plus important. Elles étaient, que ce soit les déesses d'il y a 25 000 ans ou même avant. Et ces déesses mères, elles avaient un rôle central dans les sociétés. Elles étaient à la fois la fertilité, mais elles étaient plein d'autres choses. Et les archéologues masculins qui les ont découvertes ont plaqué beaucoup de représentations sur elles. Et donc ces artistes contemporaines qui viennent réinventer ces mythes-là, et elles les réinventent aussi avec des yeux et des vécus de femmes artistes. Et donc Prunouri, elle fait ça à partir du moment où elle est mère. On a aussi une Thuéris de Nikki de Saint-Phalle. Donc c'est cette déesse égyptienne hippopotame, donc une déesse mère hippopotame, et l'hippopotame, il faut quand même se rendre compte que c'est l'animal le plus dangereux, hein, qui a l'air comme ça tout calme et tout tranquille dans le Nil, mais qui en réalité est en capacité de tuer beaucoup, et puis c'est aussi Louise Bourgeois. Donc vous allez voir beaucoup de chefs-d'œuvre dans cette exposition. Louise Bourgeois aussi avec cette sphinx qui est mi-chien, sans tête, mi-chien, avec beaucoup de seins, donc polymaste, qui est donc avec des seins très ronds, des seins remplis. On a l'impression que c'est des seins qui sont là pour venir apporter de la nourriture et du confort et du réconfort. Et puis en fait, c'est quand même un chien qui a la peau tendue sur les os avec des griffes. Donc on est entre la chienne, la louve et la mère. Et ça vient aussi la réinventer des tas de mythes, Artémis d'Éphèse, mais aussi la louve romaine. Donc ces artistes contemporaines, elles nous permettent finalement à nouveau d'exploser ce mythe unique de la bonne mère, la Vierge Marie, et elles viennent nous montrer qu'en fait on peut être des tas de mères et on peut être tout à la fois puissante et tout à la fois tout à fait chaleureuse.
Et j'ai appris, grâce à vous, en lisant la légende qui accompagnait une magnifique boucle de ceinture avec nativité macédoine du Nord datant du XIXe siècle, que l'adjectif « enceinte » provient de « sainte », signifiant « entourée d'une ceinture ». Ça paraît évident, mais je n'y avais jamais songé.
Va, ne retiens pas tes ailes, ma chérie.
Mais tu en as de si belles, toi aussi.
Ne cherche pas à comprendre, moi je sais depuis longtemps qu'un jour se défait le tendre, que l'amour change de camp.
Mais tu t'es trompé de page, le tendre n'a pas changé, il a pris qu'un peu de large, il a voulu voyager.
Va déplier bien tes ailes, ma chérie.
Il faudrait que tu essayes toi aussi.
Que sais-tu donc de mes ailes, de qui me les a coupées, qui a piégé l'hirondelle pour la mettre au poulailler?
Moi, la vie, tu peux me croire, je ne l'ai pas demandé.
C'était ma plus belle histoire, ne va pas me l'abîmer. Moi, je t'ai lissé les ailes, ma chérie.
Mais je peux lisser les tiennes, moi aussi.
Déjà, tu ne comprends plus. Tu as l'âge de la fuite, moi, celui du déjà vu.
Mais tu restes à ras de terre,
celle où je t'ai fait marcher.
Mais pourquoi toujours te taire?
Il le faut pour t'écouter. Mais oui, j'ai toujours mes ailes, ma chérie. Mais tu as ouvert les tiennes sur ma vie. Et s'il faut, laisse-moi m'habituer.
Ne dis pas de choses folles, tu as toujours su voler.
Mais tu fais de la voltige,
tu pourras voler plus bas.
Mais si je prends le vertige,
je volerai avec toi.
Et nous garderons nos ailes, ma chérie.
Anne-Cécile Maillefer, c'est votre choix musical qu'on vient d'entendre, Ma chérie d'Anne Sylvestre.
Ouais, c'est une très belle chanson avec beaucoup, un message d'amour très fort entre une mère et une fille. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas si fréquent d'avoir des belles chansons comme ça sur un amour entre mère et fille. Et puis j'aime ce que ça dit aussi de d'une mère qui veut aider, protéger sa fille. Et puis à la fin, la fille qui lui dit moi aussi, maman, je vais t'aider à déplier tes ailes. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup d'essayer aussi de faire en sorte que nos mères soit libre.
Comment était votre mère ?
Alors ma mère, elle vit toujours. Ma mère, elle s'appelle Marie-Jeanne. Ma mère, c'est une femme qui a eu un parcours extraordinaire parce qu'elle vient d'une petite ferme dans les Vosges. Elle a perdu sa maman très jeune, une famille de 4 enfants. Donc elle vient d'un milieu très modeste et c'était la première de son village à avoir le bac, à avoir une thèse, etc. Mais en même temps, elle s'est consacrée d'abord et avant tout, je la voyais moi beaucoup en tant que super maman et qui faisait toujours tout, super épouse. Et je l'ai jamais vue en tant que femme. Et je l'ai vue être beaucoup contrainte de beaucoup de choses, à pas beaucoup s'aimer. Et donc c'est vrai que moi, ce que j'ai essayé aussi de faire en tant que fille, c'est de dire à ma mère « Mais t'es belle, maman. Mais t'es forte, maman. » Ça, c'est des choses que je m'attache à faire avec ma mère.
Pour vous, la maternité est politique et vous citez la poétesse Rim Battal. Mmh. D'ailleurs, dans l'exposition, il y a une artiste, Fatima Mazmouz, qui a créé le personnage de Super Oum, une super-héroïne enceinte, fusion de corps maternel et corps militant. Alors, un petit mot sur Rim Battal, qui fait partie de ce que vous vouliez faire découvrir aux auditeurs.
Oui, bah d'abord, j'adore la poésie. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelques vers, si je peux me permettre de le lire, du coup. Donc, un vers qui me touche beaucoup. En tout cas, qui me parle, c'est l'épuisement. Ce n'est pas la fatigue, l'épuisement, c'est la fuite de toute substance de la tête par les pieds qui fait flaque entre les jambes, comme si, dans un accès de démence, l'on eût pissé son âme. Je suis épuisée. Comment la maternité et la politique ont-elles ainsi pu se louper si lamentablement ? La politique est maternelle, et la maternité est politique. Briser la parallèle qui les sépare est une urgence. Et ça, moi, ça me parle tellement parce que déjà, j'ai jamais rien fait d'aussi épuisant que d'être mère. C'est vraiment le truc qui m'a tuée, être mère. Et en même temps, je trouve ça fou à quel point on a, même nous, les féministes, finalement, contribué à renvoyer les femmes en tant que mères dans quelque chose de vraiment vers l'intérieur, quelque chose qu'on veut pas avoir, dont on veut pas vraiment parler. Alors, je comprends pourquoi, parce qu'on nous, c'est une telle injonction patriarcale. Mais néanmoins, je trouve qu'aujourd'hui, il est temps, il est grand temps que les femmes sautent de plein pied dans le débat politique sur la maternité, sur la dénatalité d'ailleurs aussi, c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur ce sujet, et parce que la maternité, ça peut être aussi un point de départ d'une participation politique, un point de départ dans la vie politique. C'est le cas pour beaucoup de femmes qui militent sur les sujets écoféministes, c'est le cas des femmes qui militent par exemple contre les violences policières dans les quartiers, c'est le cas des femmes qui militent, comme c'est le cas par exemple en ce moment à Marseille, contre le narcotrafic. Donc on voit qu'en fait, à partir de l'expérience d'être mère, ça peut être aussi un point de départ d'un engagement politique.
Et même par le refus de la maternité,
par le refus de la maternité
que vous abordez
absolument
aussi à travers l'exposition.
Mais moi, quand je me regarde, je me trouve moche. Je m'aime pas, voilà. J'ai le dégoût de moi.
À cause de lui.
Je pense que c'est à cause de lui, parce qu'il me disait toujours que j'étais pas belle, qu'il n'y avait que lui qui me prendrait. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais plus jeune, donc ça m'a pas tellement. Et là, ça revient et c'est resté. Des fois, je me dis je suis belle, puis des fois, je vous dis pas ce que je me fais, parce que vous allez me prendre pour une folle. En fait, les gens, tu les connais jamais. Même ton mari, que tu vis 20 ans, tu les découvres. Ils ont toujours un petit truc caché. Jamais j'aurais pensé qu'il me lèverait la main, que, tu vois. Ah, au début, c'était cool, une vie de couple normale, hein. On a eu la petite. Bon, après, c'était le mec qui allait beaucoup au bar. Et après, ça a commencé les coups. Quand je marchais avec lui, je regardais par terre. T'imagines un peu l'état d'esprit qu'il avait, hein.
2025, le court-métrage de Margot Fournier au Bain des Dames, primé au César. C'est sur des femmes à la plage, à Marseille. Et ça fait partie de ce que vous vouliez faire découvrir aux auditeurs, Anne-Cécile Maillefer.
Oui, je l'aime beaucoup, ce court-métrage, parce que c'est Marseille, c'est la plage, c'est à quelques mètres du Mucem. Et puis on a ces femmes, dont certaines ont été mères, mais là elles sont pas là en tant que mères, elles sont là vraiment en tant qu'humaines, qui sont sur la plage et profitent de ce moment entre amis sur la plage. Elles parlent de sexualité, elles parlent des hommes, elles parlent de tout ce qui les traverse. Et puis je les trouve magnifiques. Elles sont vieilles, comme l'écrit un tag au début du court-métrage, et elles sont sublimes, et c'est ce que j'espère être aussi, une vieille libre comme ça, qui profite du soleil.
On va terminer sur ça, on n'a hélas pas le temps de parler de tout ce que vous vouliez faire découvrir aux auditeurs, mais je vais quand même le citer, et on le mettra sur le site internet pour qu'ils aient les références. Il y avait aussi le livre « Pardonner à nos mères » de Claire Richard, inarrêtable, le livre sur les 10 ans de la Fondation des Femmes qui est sorti le 5 mars en librairie. Même date de sortie pour le livre Combattante, préfacé par Vos Soins. Le documentaire sur le postpartum, postpartum-ledocumentaire.com. Et le podcast Bliss de Clémentine Gallet et la matrescence sur la maternité. J'étais exhaustive là.
Oui, plein de références qui peuvent être effectivement, qui complètent toutes celles que vous retrouverez dans l'exposition et dans les livres qu'on a fait.
Merci beaucoup Anne-Cécile Maillefer. L'exposition Bonne Mère, dont vous êtes commissaire avec Caroline Chenu, sera visible dès le 18, donc dans deux jours, au Mucem à Marseille et jusqu'au 31 août. Des rencontres sont prévues en parallèle et un catalogue est publié pour l'occasion aux éditions Actes Sud. Votre ouvrage La panique démographique, ce que le féminisme nous apprend, sortira le 16 avril aux éditions Les Petits Matins. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette Lorfeu, à la technique Titouan Labarre.